carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Jacques Anneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un pays qui est presque un continent à lui seul, la Chine, deuxième puissance mondiale aujourd'hui, et qui est aussi un pays représentatif, bien sûr, d'une culture et d'une civilisation très ancienne. Vous vous définissez comme un Français de l'étranger au regard de votre filmographie. Faut-il la rappeler ? La victoire en chantant votre premier film en 1976 vous vaut un Oscar, celui du meilleur film étranger. En 1978 viendra Coup de tête, puis en 1981 La guerre du feu qui vous consacre au niveau international et vous place d'emblée comme un cinéaste ouvert sur le monde, l'histoire, les peuples et les cultures du monde entier. Votre film Le nom de la rose, d'après le roman d'Umberto Eco, confirme votre passion pour l'histoire en 1988. Suivront L'ours, puis L'amant, l'adaptation du célèbre roman de Marguerite Duras, puis Les ailes du courage, et 7 ans au Tibet en 1997, puis Stalingrad en 2001. Vous renouez avec l'Asie pour la troisième fois avec un film qui évoque le destin de deux tigres jumeaux dans les ruines d'Angkor. J'évoque là votre film « Deux frères » sorti en 2004, puis viendront « Sa Majesté Minor » et « Or Noir » qui a pour théâtre la découverte du pétrole au Moyen-Orient qui est sorti en 2011. Jean-Jacques Anneau, quelle vision avez-vous de l'Asie et comment avez-vous découvert la Chine ?
Mais ce désir d'Asie a commencé dans mon adolescence parce que au hasard des pistes de ski, j'avais rencontré un jeune homme qui était orphelin et que mes parents avaient trouvé très émouvant et qui se trouvait être le prince héritier du Cambodge. Mais qui venait de perdre son père et sa mère, il la connaissait à peine, qui était française. Et il est devenu mon meilleur ami. Et à travers lui, à travers ses récits, j'ai beaucoup voyagé, comme on voyage quand on est adolescent, voyagé par les rêves. Et puis, après les écoles de cinéma, j'avais été envoyé en Afrique, qui avait été un moment très fort dans ma vie où j'avais découvert le bonheur d'être au contact de la différence et de comprendre qu'on comprenait parfois mieux ceux qui parlaient pas notre langue et qui avaient une culture apparemment si différente que ses voisins de classe ou de Sorbonne. Et je crois que ce faisceau a fait que depuis toujours, j'ai rêvé de pouvoir un jour faire des films en Asie. Avec une sorte de peur d'ailleurs, parce que je savais que c'était un continent qui allait me plaire et me fascinait énormément, et que je ne voulais pas le rater. C'est-à-dire que j'ai refusé par exemple d'aller à un certain nombre de festivals où on m'avait invité, ou de faire des balades dans certains de ces pays, tant que je n'avais pas une vraie raison d'y aller, et les vraies raisons pour moi c'est de faire un film. Alors ces vraies raisons se sont présentées avec L'amant. J'avais décidé à l'époque de faire un film pour parler sexualité à mes propres filles, qui se bouchaient les oreilles à table quand je voulais parler de choses qui sortaient des conversations bien ordinaires. Je me suis donc dit que j'allais faire quelque chose dans ce sens. Et Claude Berry, ayant entendu le fameux Claude Berry, acteur, metteur en scène, et ce qui a été mon producteur pendant de nombreuses années, ayant entendu ça, arrive un jour sur le tournage de L'ours, il avait acheté les droits de L'amant pour moi, que j'ai d'abord refusé parce que je craignais beaucoup mon rapport avec Marguerite Duras. Et puis finalement, à la suite de tout un tas de péripéties, je suis revenu avec bonheur m'attaquer à la fois au fauve qui était Marguerite Duras et à ce merveilleux roman. C'est avec L'amant que j'ai découvert donc cette partie de l'Asie. J'ai commencé par le Vietnam, qui est un pays qui au début ne m'avait pas plu du tout, dans son chaos, j'étais allé en pleine saison des pluies, c'était gris tout le temps, les gens se bousculaient. Et quand je suis revenu de ces 15 jours de repérage, j'ai senti que quelque chose de profond s'était passé en moi et que j'avais envie d'y retourner. Et pour vous faire court, j'ai passé un an, une des plus merveilleuses années de ma vie en Cochinchine, aux alentours de Saigon, toute la partie sud du Vietnam. Et j'ai tellement adoré mon rapport avec les Vietnamiens et avec le pays que pendant un an après, de retour en France, j'ai plus mangé que vietnamien. J'ai été très bouleversé par ce peuple, très reconnaissant aussi de son savoir-faire, de sa gentillesse, de son inventivité. Et j'ai compris qu'évidemment, c'était une région du monde vers laquelle il fallait que je me redirige. Et là, je me suis mis à la recherche d'un film à faire qui m'expliquerait mieux la spiritualité. Je croyais avoir compris pas mal de choses. Vous savez, quand on travaille dans un pays, c'est tout à fait différent que un passage en tourisme. En tourisme, on ne comprend pas grand-chose. Quand on travaille avec les gens au quotidien, c'est tout à fait différent. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose de plus profond. Et c'est ainsi que, en recherchant des ouvrages, je suis tombé sur ce vieux bouquin d'aventure, 7 ans au Tibet, qui permettait de se rapprocher de la pensée du bouddhisme tibétain. À l'époque, j'avais, avec sans doute une certaine naïveté, pensé que cette entreprise pouvait aider à calmer les esprits entre les Tibétains qui réclamaient leur indépendance et le gouvernement chinois qui était évidemment intraitable sur le problème.
Cette fois, c'était dans les années 90.
Oui, 96. C'était dans les années 90. Et ce qui s'est passé, je crois que mon film n'était pas très violent par rapport à la position de la Chine. Mais Martin Scorsese a lancé en même temps que moi un film qui s'appelait Kundun, qu'il préparait effectivement depuis très longtemps. Et le fait que moi, je me lance dans une entreprise concernant le Tibet, ça l'a provoqué d'une certaine manière, il a décidé de remettre en chantier son film. Et du coup, 2 films sur le Tibet venant de l'extérieur, ça a été trop pour le gouvernement chinois qui a fait des pieds et des mains pour arrêter le projet. J'ai fait le film quand même.
Avec Brad Pitt.
Avec Brad Pitt. Et je l'ai tourné non pas dans l'Himalaya, mais dans la cordillère des Andes. J'ai choisi la même altitude et la même latitude, mais dans l'autre hémisphère. Et j'ai été interdit de Chine pendant très très longtemps. Je l'ai beaucoup regretté parce que je sentais que j'avais un manque profond, puissant. Et puis, récemment, je suis tombé sur un très beau bouquin qui s'appelle « Le totem du loup ».
Alors, allez-y.
Et qui est un bouquin qui est surprenant de vigueur dans son combat écologique. Surprenant, venant de Chine, surtout quand on a l'image que nous avons généralement de cette Chine pollueuse. Mais en vérité, maintenant, j'ai compris pourquoi ce livre a eu un tel succès.
Alors, c'est un livre qui a eu un succès, j'allais dire, énorme, mais plusieurs millions d'exemplaires lus, vendus en Chine, 20 millions.
Donc c'est vraiment, le plus grand succès
littéraire. C'est le dernier succès littéraire.
De Chine, en Chine, depuis le livre de Mao. Et la raison en est profonde, c'est-à-dire que c'est un livre qui analyse avec beaucoup de finesse comment la destruction de la steppe par sa mise en culture non réglementée contribue au mal de vivre des Pékinois, amène des vents de sable, déstabilise complètement cette immense région, la désertifie. Et les Chinois ont été passionnés qu'on leur explique. Et qu'un roman, en plus de ça, autobiographique, avec une histoire charmante au cœur, qui est la relation d'un jeune de l'époque, de l'époque, un jeune étudiant, un jeune instruit, comme on appelait ça à l'époque, qui avait été envoyé là et qui découvre
pendant la révolution culturelle.
Oui, en pleine révolution culturelle, il découvre d'abord un monde rural auquel il n'est pas du tout préparé. Il découvre un monde, le monde des nomades. Il découvre une civilisation qui n'est pas la sienne, qui est la civilisation mongole, et il découvre que cette civilisation est en fait très calquée sur l'organisation sociale des loups. Et il finit par en capturer un, avec toute la problématique, évidemment, de conserver un animal sauvage dans un environnement domestique. Et ce livre a très justement passionné la Chine, et m'a passionné aussi, moi.
Ça s'appelle « Le totem du loup ».
Ça s'appelle « Le totem du loup ». Et là, des amis chinois me prennent contact et m'expliquent qu'ils adoreraient que ce soit moi qui tourne ce film. Alors là, je les arrête, je leur dis « mais je suis très mal vu en Chine ». Et on me répond avec le sourire « ben vous savez, les choses changent, notre pays change et nous avons changé aussi notre opinion. Vous êtes maintenant le très bienvenu ». Et je dois dire que je suis là-bas, je me sens tellement heureux, tellement bien reçu, tellement accueilli avec ferveur et chaleur. D'abord, la Chine aujourd'hui me fait penser à ce que l'Amérique me procurait dans les années 60, quand j'étais un tout jeune metteur en scène de films publicitaires, et où je mettais le pied sur, sur le sol américain. Immédiatement, je me sentais revitalisé. Il y avait comme de l'électricité qui passait. C'était gai, tout était possible. On se sentait bien. On sentait que ça allait marcher. On sentait que le pays était un grand pays dynamique qui laissait à chacun des opportunités. C'est ce que je ressens en Chine.
C'est ce que vous ressentez, cette vitalité.
Je suis fou de Chine. Ah. Des différentes Chines, d'ailleurs. C'est ça qui est très intéressant, si vous voulez. C'est un immense pays par le nombre, un immense pays aussi par la surface, mais aussi par la variété des cultures.
Alors, cet accueil des Chinois là, pour la production de votre film va jusqu'à justement participer à la production du film ?
Mais bien entendu, je suis coproducteur du film. Je le fais avec joie, de façon à ce que notre film, je dis notre film, puisse faire partie des quotas européens, de façon à avoir un meilleur accès aux télévisions. C'est-à-dire que le film est authentiquement une coproduction, puisque l'écrivain qui a travaillé avec moi était français. Moi, j'ai écrit le scénario. Je fais la mise en scène avec un directeur de production français, enfin un coproducteur français qui est un partenaire de longue date, avec mon chef opérateur, un chef monteur qui est français. Donc, si vous voulez, il y a une forte participation française sur un film que je vais tourner en langue mandarin.
Alors, ça, c'est extraordinaire.
Bah oui, quand je vais dans le monde anglo-saxon, je tourne en anglais ou en américain. Je vois pas pourquoi, en allant à l'est, je changerais cette bonne méthode. Donc là, je fais ça avec vraiment énormément de passion.
Ouais. Et les acteurs seront...
Ce sont des acteurs mongols et chinois. Je viens de passer quasiment un an de ma vie en Chine et en Mongolie, dans la région de Pékin. J'étais président du festival de Shanghai aussi. Enfin, si vous voulez, je me sens très, très bien aussi pour une autre raison en Chine, que je vous avoue. Je n'imaginais pas que tous mes films avaient été aussi vus dans ce pays. Je le savais pour le Japon et pour la Corée, où j'ai eu des très, très grands succès. Mais la Chine était restée un peu mystérieuse pour moi. Et puis, en plus de ça, le fait que j'y étais banni ne me permettait pas d'avoir des retours. Mais j'ai là-bas, oui, des films comme L'Amant qui a beaucoup, beaucoup plu. L'Ours, Deux Frères a beaucoup plu. Et surtout, j'ai un film vedette là-bas qu'on appelle ici Stalingrad, qu'on appelle Enemy at the Gates dans le monde anglo-saxon.
Et qui est un succès en Chine.
C'est un film dont on me parle tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est chaque jour.
Comment vous l'expliquez ?
Je ne sais pas.
La Deuxième Guerre mondiale en Europe, l'histoire de Stalingrad, c'est particulier, alors que la Chine aussi était, avec le Japon, a eu ses heures de douloureuses dans cette histoire. Donc c'est intéressant que ce film ait été un succès public, je veux dire.
Ah oui, puis c'est très, très vigoureux. Je pense, si vous voulez, que les Chinois, qui n'aiment pas les Russes, s'identifient néanmoins à ces Russes, et vous mentionniez le fait que la guerre a été atroce avec le Japon, et je pense que là, le point de vue russe est probablement ressenti comme un point de vue chinois contre les Japonais, contre les nazis qui, vus de là-bas, sont plutôt des Japonais. Je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a aussi le fait d'un héros populaire, d'un héros paysan. La Chine est encore un très grand pays rural, et je pense que ce jeune personnage central qui joue le personnage de Zaïtsev, qui était un berger de l'Oural, trouve des correspondances, que le public chinois trouve des correspondances profondes. Le fait qu'il gagne aussi, et avec le décalage qui est toujours favorable. Vous savez, c'est toujours mieux de voir un film qui ne parle pas exactement de chez soi.
Cette dimension décalée.
Oui. Voilà, si vous êtes à Limoges, vous allez peut-être préférer voir un film qui se passe à Grenoble. Oui. Parce que ce sont les mêmes mécanismes, mais il y a là, d'abord le charme de découvrir une ville nouvelle, alors qu'à Limoges, je veux dire, oh, c'est pas exactement comme ça. Donc vous êtes bloqué par des détails. Là, je pense qu'il y a des similitudes très puissantes. En plus, il y a des fonctionnements, si vous voulez, des armées communistes qui sont similaires. Il faudrait qu'un jour, d'ailleurs, j'en sache plus long, mais je sais aussi que la patience du chasseur, la patience du sniper est quelque chose qui éveille l'intérêt des spectateurs chinois. Vous savez, de toute façon, la Chine est restée un pays, paradoxalement, très amoureux de la nature. Quand on découvre la Chine aujourd'hui, on est complètement toujours en porte-à-faux. C'est autre chose que ce qu'on croyait. Parce que d'abord, c'est un pays qui bouge énormément. Mais moi, je découvre, par exemple, ces racines de cet amour de la nature, l'amour des fleurs, l'amour des jolis paysages. Alors qu'effectivement, beaucoup de ces paysages sont dévastés. Mais au grand regret des populations qui, aujourd'hui, manifestent leur mécontentement. C'est un pays beaucoup plus vigoureux. Ce n'est pas du tout un pays moutonnier comme on le pense. Et puis, on y rencontre une quantité extraordinaire de gens très cultivés et très intelligents.
Alors ça, vous avez été donc surpris par vos contacts en Chine, par justement des contacts qui ont rompu le cliché moutonnier qu'on a souvent ici. Hein. On pense effectivement que la Chine, c'est un seul homme, un seul gouvernement.
C'est un peu
comme si on réduisait l'Europe à la même chose. Où voilà. C'est impossible de comprendre ce grand pays sans sa diversité. Vous évoquiez, en fait, quand je vous entendais parler de Stalingrad, comment Stalingrad avait plu aux Chinois. Est-ce que vous croyez à la puissance des images? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un cinéma, je ne voudrais pas dire sans frontières, mais votre écriture cinématographique, ce n'est pas pour vous flatter, hein, mais je veux dire, votre écriture cinématographique semble quand même largement dépasser les frontières dans tous les sens. Et c'est, je trouve très intéressant que vous puissiez nous raconter ça, là, que Stalingrad est un film qui plaît en Chine et qui plaît beaucoup, et vous évoquez la figure du paysan. C'est un élément fondamental de la culture chinoise, mais aussi européenne qu'on perd. Et vous touchez à la fois, probablement dans l'adaptation de ce roman, à une Chine qui bouge et une Chine qui est encore là, qui représente ses valeurs. Comment vous travaillez, quand vous écrivez votre scénario, votre film, comment vous travaillez pour joindre ces deux grandes, j'imagine, pistes pour vous, ou peut-être de guide, je ne sais pas, entre cette Chine d'hier, cette Chine d'aujourd'hui. Comment vous avez mélangé ça avec le roman?
Mais vous savez, c'est simple à faire.
Par l'image, hein, j'entends.
Par l'image, c'est aussi assez simple à faire. Je me plonge dans la documentation d'époque et j'ai l'impression d'y vivre, d'autant plus que je travaille dans une région où la marque de l'époque contemporaine n'est pas toujours évidente. Il y a actuellement en Mongolie d'immenses régions qui sont ce qu'ils appellent des fermes d'éoliennes, où il y a des milliers d'éoliennes. Je pense qu'ils en construisent plusieurs dizaines, voire centaines par jour. Et puis vous faites 10 kilomètres et vous êtes dans des lieux où il n'y a que des chemins de terre, des collines à perte de vue, des troupeaux de moutons, de 1000, 2000, 10 000 moutons ou de chevaux dans un paysage idyllique.
Encore nomade.
Mais bien entendu. Aujourd'hui, toute une partie de la Mongolie nomadise d'une manière très simple. Une fois que le troupeau a rongé, rogné toute l'herbe de la steppe, on fait bien attention qu'il n'aille pas déraciner les racines du pâturage et on les emmène à une dizaine de kilomètres plus loin pour sur un autre pâturage. La vie traditionnelle médiévale est aujourd'hui la même qu'elle était à l'époque de Genghis Khan. Je suis en train de lire un livre fondateur qui s'appelle L'histoire secrète des Mongols, qui décrit ce que je vis. C'est les mêmes yourtes, c'est franchement, même le feutre des yourtes est fait de la même manière.
C'est une émotion, ça.
Mais c'est merveilleux, cette continuité. Ce qui est merveilleux, c'est la dualité. L'autre jour, j'arrive dans un pâturage au milieu de la steppe. Il y avait une seule yourte, mais au-dessus de la yourte, il y a un petit avion, vous savez, qui est en fait une petite moulinette pour faire de l'électricité. Très peu, juste ce qu'il faut pour faire pour alimenter une petite lumière et la télévision. Donc les Mongols passent un temps considérable devant la télévision. J'arrive dans cette yourte. Effectivement, l'auteur du roman, Jiang Rong, est avec moi. Il me présente. Ah, le mec me dit, comment vous avez fait les gros plans de Ed Harris, encore une fois, dans Stalingrad. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, voilà, on est au milieu du désert. Dans la yourte, il y a un poêle où l'on fait, on obtient la chaleur grâce aux bouses de vache. On m'offre du fromage de lait de jument et un bouillon à la queue grasse de mouton. Donc on est en pleine Mongolie traditionnelle. Pendant ce temps-là, il y a la télé, et sur la télé, il y a des films internationaux. Et les gens sont complètement au courant de la vie politique du monde. Donc c'est ça la Mongolie d'aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est, vu comme ça, comme un étranger qui s'y promène et qui travaille avec les gens du cru, c'est qu'ils n'ont pas perdu du tout leur méthode traditionnelle. Certains se sont mis au quad pour regrouper les troupeaux. Mais même en Mongolie chinoise, beaucoup le font à cheval avec la perche à lasso. Et on a l'impression de se retrouver soit dans les années 30, soit alors vraiment au Moyen-Âge. Le costume a à peine bougé, vous savez, c'est un costume de peau extrêmement chaud, des bottes particulières qui se fabriquent encore dans les petits ateliers des villages.
Alors, revenons à votre prédilection, j'allais dire, pour l'adaptation des romans. Alors, vous avez... D'abord, vous avez lu le livre. Comment l'avez-vous perçu?
Écoutez, ce livre est un livre qui m'a d'abord énormément surpris. Je me suis dit, c'est un Chinois qui écrit ça. C'est moi-même victime de cette idée que les Chinois sont de joyeux pollueurs. Et voilà le roman probablement le plus violemment dénonciateur des méfaits de l'industrialisation sauvage et de l'agriculture désordonnée, dans une très belle langue. Le livre est magnifiquement traduit, à la fois en anglais et en français, me faisant voyager dans un pays de rêve. Je ne suis pas le seul, hein, les Français en particulier adorent la Mongolie, vont y faire du cheval, c'est la beauté des immensités, de la vie sauvage encore. Et là, se dire, mais c'est bizarre, alors la Chine, on me dit qu'il y a une censure très vigoureuse, or ce roman dénonce les méfaits qui ont suivi finalement les ordres officiels. Alors j'étais extrêmement étonné d'abord que ce livre ait pu sortir en Chine, encore plus étonné que ça ait un succès considérable. Et quand je suis allé pour la première fois en Chine, et là personne ne m'a cru autour de moi, y compris dans ma propre famille, je disais autour de moi, je suis tombé sur un groupe d'écolos que je n'ai jamais rencontré nulle part ailleurs. Des écolos intelligents qui comprennent la limite des actions que l'on peut faire pour préserver le progrès, mais comment adapter un vrai progrès à une vraie réduction des émissions, de la destruction des paysages. Et c'était passionnant. J'ai passé 3 semaines avec un groupe d'une trentaine de personnes. Nous avons fait un énorme voyage. Et j'avais le sentiment de me trouver avec des Occidentaux tout à fait conscients qu'il fallait faire quelque chose pour la planète. Et donc commencer par chez soi, et commencer par cet immense pays qu'est la Chine, et de m'apercevoir que parmi le groupe qui m'accompagnait, la moitié étaient des officiels, qu'ils étaient les représentants de la province, ou même du gouvernement, des chaînes de télévision nationales, des sociétés nationales de cinéma. Donc je me suis aperçu que le mouvement était beaucoup plus profond. Et quand vous voyez des images, comme on a vu récemment, de gens qui suffoquent dans les villes,
oui.
Mais dites-vous bien qu'ils savent bien qu'il y a un problème. On n'a pas besoin qu'on leur explique. Du coup, quand ils tombent sur des explications fines, comme celle que le Jiang Rong décrit dans ce roman, que la désertification de la steppe évidemment soulève les sables, et que lorsqu'on a la chance d'avoir du vent qui chasse la pollution, ben on a une autre sorte de pollution, c'est celle des sables qui viennent de Mongolie, et qu'il faut faire quelque chose. Et donc, en ce qui concerne la steppe, arrêter de la dévaster. Mais tout le monde est d'accord sur ça. Et alors, ce qu'on me dit, c'est que il est difficile pour un Chinois de le dire parce qu'il va tout de même déranger un certain nombre de gens et des groupements d'intérêts. Il semblerait qu'il soit plus facile qu'un étranger, non américain, ce qui est mon cas, le dise avec le plus d'honnêteté possible, de foi et de sincérité. Alors on verra, mais pour l'instant je bénéficie d'une liberté exceptionnelle dans ce pays et d'une très très grande gentillesse d'accueil.
Est-ce que c'est un film qui réunit aussi tous vos centres d'intérêt, à la fois la nature, cette préoccupation de l'environnement, du développement durable, mais aussi des animaux, ce rapport particulier qui place l'animal et l'homme au centre de notre vie aussi, quand même?
Bah, c'est tout à fait dans ma ligne, d'ailleurs.
C'est dans votre... Et là, on est peut-être au carrefour, justement.
Oui, c'est parfait parce que il y a une dimension politique et qui rattrape le monde animal et la protection du biotope. C'est, vous savez, quelque chose ça qui est venu peu à peu en moi, d'abord par ma découverte de l'Afrique, ensuite par mes recherches sur la guerre du feu, qui m'a amené à m'intéresser beaucoup à la vie en général, la vie des mammifères en particulier, mais la vie en général, avec un film comme L'Ours, et que peu à peu, sans avoir du tout démarré dans la vie comme un militant de ces causes, j'ai tellement souffert de voir les décors dans lesquels j'espérais tourner dévastés par des pylônes électriques, des autoroutes inutiles, des constructions faites de manière erratique, que forcément, ça passe au niveau du sentiment de révolte ou de dégoût, qui fait que j'ai plus envie de parler de ça que de d'autres choses qui me semblent peut-être plus futiles pour l'avenir du monde.
Merci Jean-Jacques Hanau. Le film portera le même titre, Le Totem du Loup ?
Très vraisemblablement.
Avez-vous un totem ?
Vous savez, le totem est utilisé là comme emblème, oui, ou comme référence spirituelle.
Oui. En dehors de votre épée d'académicien, quel serait le
totem votre... reste le livre. Le livre, c'est-à-dire le support de connaissances. Le livre qui peut être numérique, d'ailleurs, tout me va. Mais enfin, moi, j'ai grandi avec le plaisir de la page de papier, de son odeur particulière. Et même si j'utilise beaucoup l'électronique aujourd'hui, je suis toujours collectionneur de livres.
Jean-Jacques Hanau, nous vous souhaitons le meilleur pour la réalisation du Totem du Loup, l'adaptation du roman de Yang Rong, dont je rappelle qu'il est sorti en 2004 en Chine. C'est un véritable best-seller, vendu à 20 millions d'exemplaires. Le livre raconte l'histoire d'un étudiant envoyé en Mongolie intérieure pendant la révolution culturelle, une période noire de l'histoire politique de la Chine, 10 années considérées aujourd'hui comme une véritable catastrophe, une révolution culturelle qui a commencé en 1966 et qui a vraiment plongé le pays dans le chaos. L'histoire raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui découvre la civilisation nomade des steppes et son rapport au loup, l'emblème de cette société, d'un autre monde et d'un autre temps, pour ce citadin déraciné et transplanté par la seule volonté politique des maîtres de la révolution culturelle chinoise. Une histoire où la relation de l'homme et l'animal est au centre, une histoire, pourrait-on dire, faite pour vous, Jean-Jacques Hanau. Merci.
Merci beaucoup.
Rappelons que le cinéaste a été reçu sous la coupole de l'Institut de France pour son installation en tant qu'académicien au sein de l'Académie des Beaux-Arts par son confrère Roman Polanski. Vous pouvez entendre cette séance exceptionnelle sur Canal Académie. Pour retrouver cette retransmission et les autres émissions avec ou consacrées à Jean-Jacques Hanau sur Canal Académie, il vous suffit de taper son nom dans le moteur de recherche de notre page d'accueil. Jean-Jacques Hanau a été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 2007 et concernant la Chine, il entend œuvrer au rapprochement de la France et de la Chine par cette œuvre « Le Totem du Loup », son prochain film, l'adaptation d'un roman très politique avec un message écologique fort.